Banque Atlantique, grandir ensemble.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. À suivre dans 10 minutes, priorité santé avec Caroline Paré, mais d'abord toute l'info. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, la fuite des Palestiniens de Jenin sur ordre de l'armée israélienne. L'État hébreu a lancé une opération qualifiée d'antiterroriste dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée. C'était mardi. On va faire le point sur la situation sur place avec notre envoyé spécial permanent dans la région. Aux États-Unis, Donald Trump attendu aujourd'hui en Californie, bastion démocrate qui lutte encore contre un incendie au nord de Los Angeles. Donald Trump avait pointé du doigt plusieurs fois la responsabilité des politiques environnementales menées par les autorités californiennes. Et puis nous serons dans ce journal en Centrafrique avec la découverte du plus gros diamant jamais extrait d'une mine centrafricaine. Des centaines et des centaines de Palestiniens qui fuient la ville de Jenin, conséquence de l'offensive lancée mardi dernier par l'armée israélienne dans le camp de réfugiés palestiniens de Jenin en Cisjordanie occupée, c'est-à-dire en territoire palestinien. L'offensive a coûté la vie à 12 Palestiniens, bilan encore provisoire. L'armée israélienne a déployé d'importants moyens sur place. Jenin, considéré historiquement comme l'un des principaux bastions des groupes armés palestiniens qui luttent contre l'occupation israélienne. À Jérusalem, Salimi Boukhelifa.
La stratégie militaire des forces d'occupation israéliennes dans le camp de Jenin est toujours la même. Encercler la zone, envoyer des bulldozers. Leur mission, détruire les routes, les trottoirs, les canalisations, afin de s'assurer qu'aucun engin explosif n'y est dissimulé, explique l'armée. Et ainsi ouvrir la voie aux forces spéciales, appuyées par une couverture aérienne, des frappes de drones et d'hélicoptères. Le tout en zone urbaine dense. La population a reçu l'ordre d'évacuer, raconte Ali, habitant de Jenin.
Ils nous ont donné jusqu'à jeudi soir, 17h. Pour quitter le camp avant qu'ils ne le bombardent. C'est un déplacement forcé. Les gens sont éparpillés dans la région. Certains ont trouvé refuge dans les hôpitaux, d'autres chez des proches. On se dit, ils en ont fini avec Gaza et désormais c'est notre tour.
Dans la confusion de la fuite, le cousin d'Ali a été blessé par balle.
Mon cousin était en train de partir en voiture avec sa mère et ses neveux lorsque l'armée israélienne a commencé à tirer. Mon cousin s'est arrêté et avec le reste de la famille, ils ont essayé de trouver refuge dans la première maison qu'ils ont aperçue. C'est là qu'il a été atteint par un tir.
Le jeune homme a été soigné, son état est stable. Mais l'offensive israélienne pourrait durer encore plusieurs jours, annonce l'armée. Israël affirme lutter contre le terrorisme. Le monde à l'envers, s'insurge Ali. L'armée israélienne occupe illégalement la Palestine, rappelle cet habitant de Jenin. Sami Bourkhifa, Jérusalem. RFI.
Cette offensive israélienne qui intervient alors qu'une deuxième vague de libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens doit intervenir demain. Des libérations prévues par l'accord de trêve entre le Hamas et Israël. 4 otages israéliens en échange d'un deuxième groupe de prisonniers palestiniens. Je rappelle qu'on ne sait pas si les otages retenus par le Hamas à Gaza sont encore en vie ou non. C'est le tout premier déplacement officiel de Donald Trump depuis son investiture. Le président américain attendu en Caroline du Nord et en Californie aujourd'hui, alors que la ville de Los Angeles est encore en proie aux flammes, des incendies historiques plus violents que jamais en raison notamment du changement climatique. Donald Trump a lui pointé du doigt à de nombreuses reprises la responsabilité des politiques environnementales menées par les autorités démocrates californiennes. L'État est en effet un État pionnier en matière de lutte contre le changement climatique, Stéphanie Schuller.
Si la Californie a fait de la protection du climat son cheval de bataille, c'est parce qu'elle est en première ligne des conséquences du réchauffement planétaire. Montée du niveau de la mer, sécheresse et incendies font désormais partie du quotidien de ses habitants. Les premières régulations des émissions automobiles datent des années 1960. Et depuis, la Californie a mis en place les politiques climatiques les plus ambitieuses des États-Unis. Il y a 40 ans déjà, elle était la première à déployer des éoliennes, puis à équiper les maisons de panneaux solaires. D'ici 2030, 5 millions de voitures sur les routes californiennes seront électriques. La vente de voitures à moteur thermique sera interdite à partir de 2035. La Californie oblige aussi les entreprises à publier leurs émissions de gaz à effet de serre et sanctionne lourdement celles qui ne se conforment pas aux objectifs de réduction. Car l'État le plus peuplé du pays veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Alors quand ce lundi, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris, Le gouverneur californien Gavin Newsom a publié un communiqué, plusieurs photos des incendies à Los Angeles et une seule phrase « Si vous ne croyez pas en la science, croyez-en vos propres yeux ».
Stéphanie Schuller du service environnement d'RFI et quelques heures avant les déplacements de Donald Trump, la porte-parole de la Maison-Blanche annonce ce matin le début, je cite, de l'opération de déportation de masse la plus importante de l'histoire, en l'occurrence des migrants qualifiés de criminels illégaux. 538 auraient été arrêtés ces derniers jours selon la Maison-Blanche, des centaines expulsés dans des avions de l'armée américaine, toujours selon la Maison-Blanche. Le maire de Newark, près de la ville de New York, a lui déclaré dans un communiqué que des agents des services de l'immigration avaient fait une descente dans un établissement local, arrêté des résidents et également des citoyens sans montrer de mandat. Fin de citation. L'immigration illégale, sujet majeur de la campagne de Donald Trump. Autre sujet, celui qui concerne les dépenses militaires de ses alliés de l'OTAN. Comme lors de son premier mandat, Donald Trump ne manque pas une occasion de fustiger les États européens accusés de ne pas assez contribuer à l'alliance militaire. Et c'est dans ce contexte, Nathanaël Vitran, que la Banque européenne d'investissement s'est dite prête à doubler son soutien aux industries de défense.
Dans une interview donnée à Bloomberg depuis le Forum économique de Davos, la patronne de la BEI, l'Espagnole Nadia Calviño, dresse le portrait de ce que doit être, selon elle, la réponse de l'Europe à Donald Trump.
Le diagnostic est clair. L'Europe a besoin de plus d'intégration et de plus d'investissement. La Banque européenne d'investissement se doit de mobiliser l'investissement public et privé pour financer la transition verte et pour renforcer l'industrie de défense et de sécurité européenne. L'an dernier, nous avons mobilisé 1 milliard d'euros en faveur de la défense européenne. Nous voulons doubler ce montant en 2025.
Une promesse qui ne suffira probablement pas à apaiser Donald Trump, alors que l'Alliance Atlantique a doublé ses dépenses militaires entre 2023 et 2024. Le président américain, pendant la campagne, a suggéré que les Européens devraient encore augmenter leurs dépenses militaires pour les porter à 5% de leur PIB, bien au-dessus de ce que dépensent même les États-Unis. La Pologne, pays de l'OTAN qui consacre la plus grande part de son budget à la défense, dépasse tout juste 4% de sa richesse nationale.
Nathanaël Vitran, 10h passées de 7 minutes à l'écoute d'RFI, il s'alarme de l'offensive du M23 et du risque de guerre régionale en République démocratique du Congo. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a condamné l'extension de l'offensive du groupe armé du M23 dans l'est de la RDC. Hier, des combats ont eu lieu autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale. Direction la Centrafrique à présent, où un diamant de 177,95 carats a été découvert. C'est tout simplement le plus gros diamant jamais extrait dans l'histoire du pays. Il a été présenté mercredi au bureau d'évaluation et de contrôle de diamants et d'or à Bangui, en présence des autorités centrafricaines. Les précisions avec Rolf Steves Domiel.
C'est un diamant translucide qui ne présente aucune teinte visible à l'œil nu. Cette découverte intervient après la levée en novembre dernier de l'embargo imposé par le processus de Kimberley, une organisation qui régule le commerce des diamants. Après la crise militaro-politique de 2013, cet embargo avait été instauré sur les exportations de diamants centrafricains pour éviter le commerce de pierres précieuses issues des zones de conflit. Rufin Benam Beltungu est le ministre centrafricain des Mines.
Et au bénéfice de la levée totale de l'embargo, cette population qui était meurtrie a repris ses activités de production de diamants. C'est en cela qu'un artisan a découvert un diamant de 177,95 carats. Puisque vous connaissez comment la chaîne de traçabilité est organisée chez nous en République centrafricaine, c'est comme cela que le collecteur qui est propriétaire de cette pierre a ramené cette pierre ici à Bangui.
Mais pour l'instant, il est trop tôt pour estimer la valeur de ce diamant, explique le ministre.
Nous laissons le temps à l'équipe d'experts du BEC de pouvoir expertiser en toute quiétude et ils vont produire leur rapport. Et aujourd'hui, cette pierre se trouve entre les mains de l'administration publique. Mais cette pierre appartient au collecteur qui en avait financé la production.
Alors que certains investisseurs étaient réticents à un retour en Centrafrique après des années de crise, cette découverte est selon les autorités un signal fort pour relancer l'économie du pays. Rolf Steves Domerleux, Bangui, RFI.
Je précise que ce diamant a été trouvé dans la préfecture préfecture de Mbomou, dans le sud-est de la Centrafrique. Allez, enfin, un mot de football pour vous dire que le Français Rudy Garcia, qui a notamment entraîné Lille, Marseille ou encore l'AS Rome, sera le nouvel entraîneur de la Belgique. Voilà ce qu'annonce ce matin la Fédération belge de football. 10h10 à Paris, tout de suite, c'est Priorité Santé.